RCF.
L'université a vu le jour au XIIIe siècle en Europe. Elle naît de la transformation d'écoles souvent déjà existantes et crée de véritables communautés qui rassemblent des maîtres et des étudiants. De Bologne à Paris, en passant par Montpellier, Oxford ou Padoue, les universités au Moyen-Âge vont rayonner à travers toute l'Europe, former des milliers d'hommes dans diverses disciplines et diffuser un réel savoir. Bonjour Antoine Destemberg.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université d'Artois et vous avez publié en 2015 « L'honneur des universitaires au Moyen-Âge ». C'est un livre qui est paru aux presses universitaires de France. L'université, le savoir, l'enseignement au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui vous intéresse de manière particulière? C'est un sujet particulier?
C'est un sujet qui est traité par les historiens depuis déjà un certain nombre de décennies, mais l'historiographie sur ces sujets a connu des inflexions assez notables. Alors qu'au XIXe siècle, on s'intéressait aux institutions universitaires, puis à l'histoire des idées principalement, à partir du milieu du XXe siècle, on s'est intéressé à l'histoire sociale des étudiants et des maîtres, et ainsi observé une communauté en gestation, beaucoup plus que de faire une histoire des idées uniquement. Et à partir de ce moment-là, ce sont des institutions qui ont pris corps, véritablement, et qui débouche donc sur une historiographie qui est maintenant renouvelée depuis cette époque-là.
Est-ce qu'on peut dater de manière précise l'apparition de l'université médiévale ?
Non, on ne peut pas dater très précisément la naissance de l'université médiévale parce que, comme beaucoup d'institutions de cette époque, elles sont le résultat de transformations progressives dont on arrive à repérer quelques traces documentaires qui nous permettent de situer, je dirais pour les premières attestations dans les écrits, l'apparition de trois premières universités que sont Bologne, Paris et Oxford. Et cette apparition se fait progressivement entre les toutes dernières années du XIIe siècle et, je dirais, les deux premières décennies du XIIIe siècle. Les premières mentions du terme d'universitas, donc la notion juridique structurante pour ces communautés. Ces premières mentions apparaissent en 1208 à Paris, aux alentours de 1215 à Bologne, également à Oxford. Donc c'est à partir de ce moment-là où on peut véritablement parler d'université.
Est-ce qu'il y a un contexte particulier qui explique que ce type de communauté et d'enseignement émerge ?
Oui, alors il y a un contexte multiple, un contexte intellectuel d'abord. Depuis le milieu du XIe siècle, l'Église, qui a entamé une grande réforme, la réforme grégorienne, s'est dotée progressivement de structures scolaires destinées à former mieux ses clercs, à former mieux ses théologiens, de façon à avoir des élites intellectuelles qui soient capables de porter la réforme ecclésiastique. Il y a également un contexte, je dirais, sociopolitique plus large. Le XIe et le XIIe siècle est une période qui voit une stabilisation des pouvoirs, notamment des pouvoirs princiers, royaux, tout à fait propice à une plus grande mobilité sociale, géographique des populations. Cette mobilité est absolument essentielle pour permettre la circulation de jeunes clercs qui se destinent à faire des études et quittent leur lieu d'origine pour aller dans ces centres urbains essentiellement où on enseigne. Et puis plus directement, il y a un contexte qui est le monde urbain. Jacques Le Goff, dans son livre « Les intellectuels au Moyen-Âge » en 1957, disait « Au début, il y eut la ville ». Ce contexte urbain est tout à fait essentiel parce que c'est un lieu de mélange des populations, un lieu de liberté plus grand, et ce cadre urbain permet l'installation de populations nombreuses qui font profession d'autre chose que de la culture, de l'agriculture, ou simplement de prier ou de combattre, selon cette fameuse tripartition fonctionnelle de la société, ces trois ordres. Et là, on a une catégorie particulière qui émerge et qui fait profession de penser et d'enseigner. Et donc ça, le cadre urbain est tout à fait fondamental de ce point de vue-là.
Est-ce qu'on peut dire, pour résumer, finalement, qu'on est dans une période plutôt d'essor ?
Effectivement, il y a un essor urbain. On a une croissance de population
démographique
à partir au cours du XIIe siècle est absolument considérable. Certaines villes voient leur population multipliée en un siècle par deux, par trois. Donc il y a un contexte qui est tout à fait favorable à cet essor, oui.
Simply.
Antoine d'Estemberg, qu'est-ce qui se transforme, dont vous avez parlé tout à l'heure ou auquel vous avez fait allusion, qui devient université ?
D'abord, le terme universitas, hein, c'est un terme juridique de droit romain employé pour désigner une communauté jurée, c'est-à-dire unie par le serment, qui, en tant que telle, a un statut juridique des représentants. C'est un terme qui n'est pas réservé à l'origine au monde des écoles. Certaines villes, certaines communes se font appeler universitas. Donc c'est un terme qui n'est pas limité au milieu scolaire, mais qui progressivement devient accolé à ce milieu scolaire. Et donc l'émergence de l'université, c'est cette agrégation juridique d'une communauté d'intérêts entre maîtres et étudiants, qui jusqu'à présent avaient des activités éparpillées dans la ville. Au XIIe siècle, on a une variété d'écoles aux statuts très différents, écoles cathédrales, écoles canoniales, des écoles voire de statuts presque privés, reposant sur simplement l'enseignement d'un maître en particulier. Et à partir donc de cette extrême fin du XIIe siècle et du XIIIe siècle, se fédère ce réseau d'écoles sous l'égide de l'Église pour devenir donc une grande institution qu'est l'université.
À ce moment-là, donc, ces universités dépendent directement de l'Église.
Alors, elles dépendent largement de l'Église, et ce qui fait qu'elles en dépendent, et c'est là un tournant essentiel dans la constitution de ces communautés de maîtres et d'étudiants, c'est qu'ils bénéficient de ce que l'on appelle le fort ecclésiastique, c'est-à-dire qu'ils relèvent uniquement de la juridiction de l'Église. En cela, ils sont protégés des justices laïques, ça en fait une communauté juridiquement bien identifiée et inévitablement des clercs. Donc ce sont des clercs, et en tant que tels, ils sont sous la juridiction de l'Église et font partie de cette institution.
Vous dites « ils sont des clercs », les maîtres ou les élèves ?
Les deux. Les deux, c'est-à-dire que à partir du moment où on est à l'université, on est protégé par ces privilèges ecclésiastiques, et à partir de ce moment-là, on est clerc. Être clerc, c'est d'abord être sous l'autorité de l'Église d'un point de vue juridictionnel.
Ce terme d'université désigne, comme vous l'avez dit, un groupe de personnes et non pas des bâtiments.
Oui, c'est la particularité notamment de l'université de Paris, qui est une université qui, au Moyen-Âge, n'a pratiquement aucun bâtiment propre. Certaines églises reçoivent un patronage, sont administrées par des fragments de l'université, mais il n'y a pas du tout
d'unité
de bâtiment. Il n'y a pas de lieu.
Et alors, où est-ce qu'on enseigne ?
Alors, au tout début de la période d'enseignement universitaire, c'est un peu partout. On loue une salle dans une taverne, des maîtres utilisent des pièces qu'ils ont réquisitionnées. On trouve également des enseignements tout au bord de la rue, et on a longtemps dit que la rue du Fouarre, à Paris, c'est au plein cœur du quartier de la Faculté des Arts, tenait ce nom du foin que les étudiants achetaient pour pouvoir s'y asseoir, des bottes de paille sur lesquelles ils s'asseyaient pour suivre
pendant
les cours. Voilà. Donc, c'est une université qui est, comme le disait Étienne Pasquier au XVIe siècle, qui est bâtie en hommes et non pas en murs. Et ça, c'est une spécificité qui progressivement évolue, notamment à partir du XIVe siècle, avec, pour ce qui est de Paris notamment, l'apparition des collèges qui viennent ancrer des bâtiments, cette fois dans le quartier universitaire.
Finalement, à part peut-être Paris, les autres ne sont pas forcément dans des capitales.
Oui, c'est la particularité de Paris. Paris est à la fois ville universitaire et capitale royale. Ce n'est pas le cas des autres grandes universités. Oxford est une petite bourgade qui n'a rien à voir évidemment avec Paris. Bologne est une ville dans l'orbite de la papauté qui est une ville relativement importante mais qui n'a pas ce prestige politique. Si l'on regarde Montpellier, c'est à peu près la même chose. Et globalement, il n'y a pas, avant la tentative de fondation d'une université à Naples par Frédéric II en 1224, de ville qui accueille à la fois un pouvoir princier, un pouvoir royal, et une université. Donc c'est vraiment la spécificité de Paris.
Comment est-ce qu'on explique alors que ces villes moyennes, voire ces petites bourgades, accueillent des universités ?
Ce sont des contextes qui sont à chaque fois très différents. On s'est beaucoup posé la question pour Oxford, parce qu'effectivement Oxford est à l'origine une ville d'une dimension à la fois secondaire d'un point de vue religieux, certes une ville qui connaît une activité commerçante, mais qui n'est pas non plus, je dirais, l'une des plus importantes du Royaume d'Angleterre à ce moment-là. C'est essentiellement un élan qui est donné par la bourgeoisie locale. par des réseaux, et on voit que cette bourgeoisie d'Oxford n'hésite pas à envoyer ses enfants dans les écoles parisiennes, et l'université d'Oxford, de ce point de vue-là, est largement le produit de la circulation de ces élites des deux côtés de la Manche. Pour ce qui est de Bologne, là, l'influence pontificale est tout à fait importante, même si Bologne est une de ces grandes villes du nord de l'Italie qui compte plusieurs dizaines de milliers d'habitants. On a là aussi des infrastructures qui permettent d'accueillir des centaines d'étudiants.
Antoine d'Estambert, quelles sont les disciplines, les matières enseignées dans ces universités médiévales ?
Alors, les disciplines enseignées se sont globalement au nombre de quatre. Il y a d'abord ce que l'on appelle les arts libéraux, qui sont un ensemble de disciplines héritées de l'Antiquité grecque et latine et qui se structurent autour de sept disciplines, ce que l'on appelle le trivium, qui est l'art des mots et qui rassemble donc la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et puis ce que l'on appelle le quadrivium, qui est cette fois l'art des nombres, dans lesquels on retrouve la géométrie, l'arithmétique, la musique et l'astronomie. Ces arts libéraux, c'est un art encyclopédique hérité de l'Antiquité, constituent dans les universités médiévales ce que l'on pourrait appeler l'enseignement propédeutique. C'est par là que l'on commence, même si les étudiants qui rentrent à l'université, pour les plus jeunes, à partir de 14-15 ans, ont déjà eu des enseignements de grammaire, très probablement dans des petites écoles auparavant. Donc le latin, qui est la langue qui est parlée et utilisée, c'est une langue qu'ils maîtrisent en entrant à l'université. Mais ce premier temps donc de formation, c'est essentiellement autour de ces arts libéraux, avec une inégalité laissée à la place de chacune de ces disciplines. La particularité de l'université de Paris, notamment, est d'avoir survalorisé le trivium, l'art des mots, et au sein du trivium, plus particulièrement, la dialectique. L'art du débat, de la construction du raisonnement, c'est véritablement la grande mutation de l'enseignement à partir du XIIe siècle.
Et Paris est connu pour ça.
Et Paris est connu pour ça. Comme le disait d'ailleurs Pierre Abélard lui-même, on vient à Paris pour entendre les cours de dialectique.
Il y a d'autres disciplines à ajouter ?
Alors, ça c'est donc ce qui constitue et qui devient la première faculté à l'Université de Paris. Ensuite, il y a trois autres disciplines dans les universités de type parisien. On les appelle les facultés supérieures, au sein desquelles on trouve la médecine, le droit, mais on devrait plutôt dire les droits, puisqu'il y a d'un côté le droit canon, qui est le droit de l'Église, et puis de l'autre côté le droit civil ou romain. Et puis enfin, reine des disciplines, celle qui vient couronner un cursus universitaire, la théologie.
Ces savoirs et ces enseignements se font à partir d'écrits ou bien on est essentiellement dans un enseignement oral ?
Alors, on est principalement dans un enseignement oral. Néanmoins, c'est un enseignement oral qui sert à transmettre l'écrit. C'est une des particularités de la période médiévale. Le livre est un instrument cher et donc relativement rare, difficilement accessible pour les étudiants. Et la première fonction de l'enseignement, c'est donc de faire passer le contenu des livres. L'enseignement par excellence, la façon d'enseigner la plus ancienne, c'est ce que l'on appelle la lectio, terme qui en latin a donné à la fois lecture et leçon. On lit les textes, de façon à permettre aux étudiants tout simplement de les entendre, de les prendre en note et eux-mêmes de se les approprier. Il y a néanmoins le rôle de l'écrit qui est fondamental. Quand on regarde les représentations, les enluminures, le maître est presque systématiquement représenté avec le livre. Le livre, c'est le support de l'autorité. C'est d'ailleurs un objet que l'on remet parfois lors des cérémonies de doctorat, symboliquement au maître, parce que ça signifie que maintenant, il est digne d'enseigner.
Ce qui fait le prestige de l'Université de Paris, c'est son enseignement de la dialectique. Est-ce que d'autres universités comme ça en Europe sont connues pour une discipline particulière et justement sont courus, entre guillemets, à cause de cette discipline ?
Oui, tout de suite vient à l'esprit l'université de Bologne. C'est l'université de droit par excellence. C'est une université qui est apparue à partir des écoles de formation juridique de notaires et qui s'est, dès le XIIe siècle, spécialisée dans l'enseignement du droit canon et du droit civil. Donc, quand on veut faire les meilleures études de droit, on va à Bologne. Et puis, dernière université qui tient sa réputation à une discipline en particulier, c'est celle de Montpellier, qui, elle, est née des écoles de médecine qui se sont développées là aussi dès la fin du XIIe siècle, qui est là aussi extrêmement réputée pour sa formation médicale.
Sans toutes ces universités que vous avez citées, Antoine d'Estembert, est-ce qu'elles ont des liens entre elles? Est-ce qu'il y a un contact établi pour peut-être se donner des informations sur les types d'enseignement, sur les méthodes aussi?
Alors, il y a des contacts qui sont d'abord liés à la circulation des personnes qui fréquentent ces universités, en particulier la circulation des maîtres. Les maîtres circulent, oui, tout à fait. On n'hésite pas à aller chercher parfois des maîtres dans certaines universités pour essayer de stimuler une autre université. Par exemple, en 1229, quand on essaie de fonder l'université de Toulouse, on va chercher des maîtres parisiens pour essayer de greffer cette université à Toulouse. On a l'exemple également dans la fondation, un peu plus tardivement, au XIVe siècle, d'université germanique, où là encore ce sont des maîtres parfois venant de l'université de Paris qui sont à l'initiative de ces créations. Donc il y a des circulations de maîtres, il y a des circulations d'étudiants qui font qu'on n'ignore pas ce qu'il se passe dans toutes ces universités. La circulation c'est aussi une circulation des textes et des savoirs. C'est aussi structurant de ce point de vue-là. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a véritablement une méthode universitaire et une façon de raisonner qui leur est propre, parfaitement identifiable.
Qui est propre à chaque université ou qui est propre au monde universitaire en général?
Au monde universitaire en général. Alors, on pourrait trouver des particularités. Des petites différences. Par exemple, je disais qu'à Paris, la dialectique était particulièrement mise en avant. C'est moins le cas à Oxford, où on s'intéresse plus au quadrivium, où on s'intéresse encore aux sciences naturelles. Donc, il y a des petites différences, mais la méthode elle-même, qui est fondée sur ce que l'on appelle la dispute, la disputatio, l'échange d'arguments contraires dans la perspective d'atteindre la vérité. Cette idée tout à fait fondamentale dans la dispute, dans le dialogue, eh bien, cette méthode, ce mode de raisonnement est caractéristique du monde universitaire. C'est celui qu'on a parfois baptisé comme étant la méthode scolastique. C'est quelque chose qui est partagé par les universités.
C'est ça la scolastique?
Oui, c'est cette méthode de raisonnement, c'est cette façon de construire son propos à partir des autorités que l'on discute, on avance les arguments contraires et on essaie de résoudre des problèmes en usant de la méthode dialectique. Donc oui, la scolastique, d'une certaine façon, c'est ça. C'est beaucoup d'autres choses, mais le point de départ, c'est cela.
Il y a des concurrences, des rivalités entre ces universités?
Absolument, il y a aussi évidemment des rivalités institutionnelles qui sont aussi parfois des rivalités de discipline. Dès le début du XIIIe siècle, on voit le clergé parisien qui regrette que des étudiants trop attirés par l'argent décident de partir à Bologne faire des études de droit qui seront sans doute plus rémunératrices à la fin de leur carrière plutôt que de faire de la théologie. Et puis, surtout, je dirais pour la fin de la période médiévale, à partir du XIVe et du XVe siècle, où on a une multiplication des fondations universitaires, où le recrutement de ces nouvelles universités est essentiellement local ou régional, viennent concurrencer le recrutement quasi universel de ces anciennes universités qui étaient Paris, Bologne, etc. Et ces anciennes universités acceptent très mal cette concurrence de nouvelles universités et critiquent très régulièrement le cursus, la façon dont on y fait des études, leur capacité à délivrer des grades très vite alors que les étudiants n'auraient pas satisfait rigoureusement aux obligations pour pouvoir y prétendre. Donc il y a une concurrence effectivement qui s'accentue à partir du XIVe-XVe siècle, à partir du moment où la multiplication des institutions universitaires vient sur le même bassin de recrutement puiser les étudiants.
Est-ce qu'il y a des noms de maîtres à retenir ou à citer en tout cas?
Alors il y a évidemment énormément de maîtres dont on pourrait parler. Certains sont un peu atypiques dans le monde universitaire. On pense évidemment à Thomas d'Aquin qui est tout à fait particulier parce que Thomas d'Aquin appartient pas directement à l'université même s'il enseigne notamment à Paris. Mais en tant que dominicain, il est membre de ces studia mendiants qui se développent à la fois dans et à côté de l'université et qui créent des crispations entre les maîtres issus du clergé séculier et ceux issus des ordres mendiants. Donc on pense à lui, mais Robert de Sorbon est aussi tout à fait connu à Paris pour avoir fondé un collège qui est devenu réputé.
La Sorbonne.
La Sorbonne.
Dont on reparlera pour parler des conditions de vie des étudiants.
Absolument.
Un cursus universitaire, en moyenne, dure combien de temps?
Alors c'est variable, il peut être relativement court à partir du moment où on se contente d'obtenir le premier grade, la première maîtrise, qui est donc la maîtrise SR. Les étudiants ne pouvaient y prétendre à Paris qu'à partir de l'âge de 21 ans. Il fallait avoir atteint l'âge de 21 ans pour pouvoir prétendre à la maîtrise SR, sachant que ces étudiants pouvaient être rentrés à l'université pour un cursus complet dès l'âge de 14-15 ans. On avait une première étape qui devait durer autour de 6 ans. Ce sont des chiffres tout à fait théoriques issus de la littérature normative des statuts. En réalité, quand on a des parcours précis où on peut suivre les étudiants, on se rend compte que c'est souvent beaucoup plus souple. Une fois ce premier cursus, on pouvait accéder donc aux facultés supérieures et là aussi, la durée des cursus était variable, 6 à 8 ans pour les facultés de droit ou de médecine. Et puis la plus longue, c'était la faculté de théologie, puisqu'on ne pouvait pas devenir maître en théologie avant d'avoir atteint l'âge de 35 ans. Donc on peut imaginer que quelqu'un entré à la faculté des arts à 15 ans, sortant maître en théologie à 35 ans, avait passé une vingtaine d'années à l'université.
Antoine d'Estemberg, vous avez dit précédemment qu'on peut entrer à l'université, disons au Moyen-Âge, dès l'âge de 14-15 ans, ça paraît très jeune aujourd'hui pour nous. Qui sont ces jeunes gens qui s'orientent vers ces études universitaires ?
Alors c'est une bonne question et malheureusement pour l'historien médiéviste, c'est sans doute une des questions auxquelles il est plus difficile de répondre.
Pourquoi ?
Parce que la documentation que nous avons sur les parcours étudiants, en particulier pour l'Université de Paris, sont relativement rares. Paris n'a en effet jamais tenu de registre de matricule qui permettait d'enregistrer les étudiants au moment où ils se présentaient.
Ça se faisait ailleurs ?
Oui, ça se faisait ailleurs, essentiellement les universités allemandes durant la seconde partie de notre période ont conservé des registres complets de matricule qui permettaient donc de savoir très précisément à quel moment étaient arrivés ces étudiants et en général ils précisaient aussi leur diocèse d'origine, etc. C'est beaucoup plus difficile pour l'Université de Paris parce que la documentation est moins systématique. Alors on arrive à retrouver un certain nombre de choses, mais de fait, il est difficile de savoir précisément l'origine sociale de ces étudiants, même si on a des indices par ailleurs.
Quels sont les indices quand même qui peuvent nous aider à dresser un peu un profil de
Alors,
ces gens ?
Les indices, ils sont d'abord à la présence ou non d'étudiants issus de la noblesse. Parce que là, c'est un critère qui est remarqué. Alors, il est peu remarqué à Paris, parce qu'on ne tient pas compte de la qualité de noblesse à Paris. Mais dans d'autres universités, les universités méridionales, et toutes les universités en particulier qui sont dominées par le droit, il y a une forte présence nobiliaire. Il s'agit en général de cadets qui viennent faire des études et espèrent construire une forme de promotion sociale. Quand il s'agit d'étudiants qui sont issus de milieux beaucoup plus modestes, là, c'est beaucoup plus difficile. On sait qu'ils sont issus de milieux modestes parce que à l'université, on payait des droits d'examen, qu'on appelait à ce moment-là une bourse, et ces droits d'examen étaient soumis aux revenus que l'on possédait au moment où on s'inscrivait. Et donc, on a des registres qui permettent de mentionner que ces étudiants sont déclarés pauvres, donc sans revenus, et à partir de ce moment-là, ils étaient dispensés de droits d'examen.
Donc, on pouvait prétendre s'engager dans ces études tout en étant pauvre.
Oui. Théoriquement, c'était possible, puisque depuis le concile de Latran III de 1179, la papauté avait établi que l'enseignement devait être gratuit. Donc on ne se fait pas payer quand on est maître normalement pour enseigner. C'est essentiellement la nécessité de subvenir à ses besoins matériels qui était compliquée pour les étudiants.
Ces étudiants donc sont d'abord exclusivement des garçons ? Il n'y a pas de femmes ou de filles.
C'est entièrement masculin. Tout à fait. C'est une institution qui est entièrement masculine.
Où est-ce qu'ils logent, tous ces jeunes gens ?
Ils logent dans des endroits qui peuvent être tout à fait différents. Parfois, ils logent chez le maître. C'est le terme que l'on retrouve dans la documentation parisienne, qu'on appelle des pédagogies, des maîtres qui ont des maisons à Paris, louent une chambre à leurs propres étudiants. On retrouve la même chose d'ailleurs à Oxford, c'est une habitude. Et puis, ils louent aussi des chambres aux bourgeois parisiens à des conditions qui sont normalement avantageuses. Depuis les statuts de Robert de Courson de 1215, statuts qui ont été donnés par le cardinal Robert de Courson à l'Université de Paris, il y a l'obligation de ce qu'on appelle une taxation des loyers pour les étudiants, c'est-à-dire d'appliquer des loyers qui sont modérés. Et si cette taxation des loyers n'est pas respectée, la papauté donne le droit aux étudiants de faire grève. Donc il y a la volonté de contrôler le marché du logement pour les étudiants à Paris.
Et ils ne s'en sont pas privés ?
Et ils ne s'en sont pas privés. Alors pas toujours pour des problèmes de loyers, mais en tout cas...
Il y avait déjà des grèves.
Oui, tout à fait.
D'étudiants.
C'est une invention médiévale, universitaire et de la papauté, la grève, en 1231.
Ils sont reconnaissables ?
Oui, alors ils sont reconnaissables parce qu'ils sont d'abord des clercs. Donc il porte la tonsure. Alors c'est tout à fait essentiel parce que nous sommes dans une société où l'apparence physique permet de savoir à qui l'on a affaire quand on est dans la rue. Et quand on est un sergent du prévôt de Paris incarnant la justice laïque, quand on voit un jeune homme tonsuré, on sait qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Donc c'est important.
Parce qu'il relève encore une fois de la justice ecclésiale.
Il relève de la justice ecclésiastique, absolument. Et puis il y a des prescriptions vestimentaires dans les statuts universitaires qui ne sont pas différents de ce que l'on trouve dans les prescriptions de nature strictement ecclésiastique. Il porte une robe longue qui doit couvrir les chevilles, de préférence avec des couleurs relativement sombres. L'usage de la fourrure est limité et réservé à la hiérarchie de l'université. Donc oui, ils sont reconnaissables de cette façon-là.
Revenons à Sorbonne, Antoine d'Estambert, on l'a évoqué déjà, le fondateur de la Sorbonne, qui est au départ un collège. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, c'est un collège. Un collège, c'est une maison. À l'origine, le terme qui est employé le plus souvent, c'est le terme latin de domus. C'est une maison qui a pour vocation d'accueillir des étudiants qui viennent faire des études à l'Université de Paris. Ce n'est donc pas, au moment de sa création en tout cas, un lieu où l'on suit un enseignement, mais uniquement un lieu destiné à pourvoir aux besoins de logement, de se nourrir et aussi de trouver des conditions d'études favorables.
Une sorte de résidence universitaire ?
C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est une forme de résidence universitaire. Alors le système des collèges est un système initié dès l'apparition de l'université. On a les tout premiers collèges dès la fin du XIIe siècle, le collège des 18 notamment, en 1180, qui était tout simplement 18 places réservées à l'Hôtel-Dieu de Paris pour des étudiants venant faire des études à Paris. Quelques collèges donc sont fondés dès le début du XIIIe siècle, mais le tournant de ce mouvement de la fondation des collèges, c'est bien en 1257, la fondation du collège de Sorbonne par Robert de Sorbonne, destiné à accueillir une trentaine d'étudiants qui ont fait des études déjà à la faculté des arts et qui se destinent à la théologie. Et donc on leur offre un cadre de vie pour travailler tranquillement. Ils ont parfois une bourse, donc un petit pécule pour pouvoir vivre. Et puis, surtout, ce qui va faire le prestige de la Sorbonne, c'est un lieu où il y a des livres, une bibliothèque. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental et qui va jouer pour la centralité de ce collège dans l'ensemble de l'Université de Paris et de la faculté de théologie.
Ça, c'est un modèle qui va se généraliser ?
C'est un modèle qui tend à se généraliser. Le collège de Robert de Sorbonne étant véritablement quelque chose qui initie un mouvement. Et puis à partir début du XIVe siècle, les collèges se multiplient. Ils sont l'initiative tantôt de grands prélats, d'évêques notamment, qui prennent le soin de créer une maison. Donc ils achètent tout simplement une maison dans Paris pour permettre la plupart du temps aux étudiants qu'ils font venir du diocèse qu'ils administrent pour leur permettre de venir faire des études à Paris. Et puis à côté donc de ces fondations qui sont des fondations essentiellement ecclésiastiques, les grands laïcs, par souci charitable de faire une fondation pieuse, donnent aussi, en général dans leur testament, des lieux pour permettre d'accueillir des étudiants. C'est le cas d'un des deux autres grands collèges de Paris, qui est le collège de Navarre, fondé par Jeanne de Navarre, la femme de Philippe le Bel, dans son testament en 1304-1305. Donc là, on a aussi un mouvement qui est initié, et grands prélats comme princes ou femmes issues de milieux princiers vont donner des sommes tout à fait considérable pour permettre d'accueillir une communauté d'étudiants dans un collège, avec en contrepartie cette vocation essentielle de prier pour le salut du fondateur, parce qu'il faut derrière faire œuvre pieuse et œuvrer pour son salut.
Donc des jeunes gens de sexe masculin qui viennent d'un peu partout en Europe, là on parle de Paris mais c'est vrai, on imagine bien de toutes les autres universités.
Oui, tout et ça, Paris accueille aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de partout en Europe.
Ouais. Oui. Cette jeunesse dans les rues de Paris, ça peut, ou des autres villes, pour ne pas se focaliser uniquement sur Paris, ça crée de l'agitation. La cohabitation avec le reste de la population se fait en bonne entente ou c'est parfois compliqué ?
Alors c'est très variable et effectivement il y a de l'agitation, c'est une population notamment pour la population la plus jeune qui est turbulente, ce qui inquiète beaucoup les institutions universitaires qui répètent régulièrement dans les statuts universitaires que on ne doit pas faire des sorties de nuit, il faut éviter de fréquenter les tavernes et pourtant les tavernes sont un lieu de sociabilité absolument essentiel et même intégré au mode de vie universitaire. Après chaque examen, après les assemblées, on se retrouve pour une potatio à la taverne. Mais la taverne charrie une forme de vie qui n'est plus tout à fait la vie cléricale. Donc oui, il y a une cohabitation qui est parfois très difficile et on a, que ce soit à Oxford, à Bologne ou à Paris, des épisodes très violents de confrontation entre la population bourgeoise soutenue par le pouvoir laïque et puis ses étudiants. L'apparition de l'Université de Paris est ponctuée par ces échauffourées. La première véritablement mention de la communauté des maîtres et des étudiants à Paris, c'est en 1200. C'est une charte du roi Philippe Auguste qui vient essayer de réparer une action violente de son prévôt qui a tué un étudiant et qui en a molesté un certain nombre avec les sergents. Et donc, réparation est faite. En 1231, la grande charte de l'Université de Paris est promulguée par le pape à l'issue d'un très long conflit qui commence 2 ans auparavant et qui a comme origine une querelle de taverne du côté du quartier Saint-Marcel, qui est donc au sud du quartier universitaire. Donc, il y a des violences nombreuses liées à cette fréquentation de population, et puis d'une jalousie aussi, d'une certaine façon, de la population urbaine qui voit cette catégorie de jeunes clercs échapper au contrôle de la justice urbaine parce qu'ils sont des clercs et on ne peut rien faire contre cela.
Toutes sortes de jeunes gens viennent se former dans les universités européennes au Moyen-Âge, Antoine d'Estombert. En vue de quel type de profession, d'avenir, qu'est-ce qu'on fait finalement de ces études universitaires et peut-être du diplôme qu'on obtient à l'issue de cette formation ?
Cela dépend de la formation que l'on a suivie. Pour beaucoup d'étudiants, c'est d'abord la faculté des arts, donc le grade de maîtresse art, qui est le plus souvent recherché. Cela apporte une connaissance suffisante des lettres pour ensuite pouvoir prétendre éventuellement être recruté auprès d'administrations locales, comme clerc de ville, par exemple, à un moment où ce 12e-13e siècle est aussi une révolution du droit, des institutions politiques s'appuyant sur le droit et qui ont besoin pour cela d'avoir des gens formés, des officiers formés. Et l'université, de ce point de vue-là, y pourvoit largement. Donc, pour une grande partie, ce sont d'abord des débouchés dans des administrations locales, parfois princières, ou encore, évidemment, des administrations royales. Quand on fait des études de droit, encore plus, puisque en devenant un spécialiste du droit, en tant juriste, on est largement sollicité par toutes ces institutions qui construisent leur pouvoir à partir du droit.
Surtout si on est passé par Bologne.
Si on est passé par Bologne, mais également si on reste dans l'espace du Royaume de France, il y a le droit canon qui est enseigné à Paris et puis le droit civil à Orléans. Et être passé par les deux assure en général une carrière dans les administrations assez ouverte. Et puis, quand on a fait des études de médecine, avec le droit aussi d'ailleurs, ce sont des études qui permettent de devenir praticien. Donc on peut pratiquer la médecine, de même que le droit, on peut devenir avocat, devenir procureur, et là, on a un débouché qui est un débouché pratique. Dans le cadre de ce qui est la discipline la plus prestigieuse,
qui est
la théologie, là, on forme essentiellement les élites de l'Église. C'est également le cas pour le droit canon. Et l'Église est évidemment l'un des débouchés essentiels de ces étudiants. Et puis l'université elle-même. Parce que quand on prétend devenir maître, c'est d'abord pour enseigner ensuite à l'université. Donc l'université produit ses propres élites, se reproduit en formant ses propres maîtres, mais ce n'est pas le seul débouché. À partir du moment où on a acquis un savoir suffisant en lettres, on a des débouchés assez faciles dans l'ensemble des administrations ecclésiastiques ou laïques.
Très concrètement, on dispose d'un document avec un sceau peut-être ou une attestation qui prouve qu'on est diplômé d'une université ?
Alors à Bologne, on a des traces effectivement de documents dès le XIIIe siècle, que l'on pourrait appeler donc un diplôme, mais au sens diplomatique du terme. À Paris, on n'en a pas, on voit apparaître à partir du milieu du XIVe siècle ce que l'on appelle des lettres de grade, qui sont effectivement des lettres signées par les maîtres et qui viennent attester du fait que leur étudiant a bien obtenu un tel grade à l'université. On n'est pas encore dans une société où il faut produire des documents comme ça, et le simple fait de se présenter comme maître, le témoignage en général suffit. Mais c'est bien de façon plus générale, au tournant du milieu du XIVe siècle, que l'on voit se généraliser ces lettres de grade, ce que l'on appellera ensuite les diplômes, qui viennent attester, en dehors du monde académique, des capacités que l'on a acquises au sein de l'université et qui assurent de fait de pouvoir avoir un débouché.
Antoine d'Estambert, dans quelle mesure l'université médiévale permet-elle une forme d'ascension sociale, de promotion sociale ?
Alors ça, c'est, je dirais, ce qui constitue la vraie révolution sociale de l'université et globalement du système scolaire tel qu'il se met en place au XIIe et XIIIe siècle. La société médiévale est une société qui ne connaît pas de fluidité sociale particulièrement importante, et sa capacité à s'élever dans l'échelle sociale tient essentiellement, alors soit d'être bien né, mais pour s'élever, c'est souvent le service d'un autre. L'université et les écoles apportent un autre système que l'on pourrait qualifier de méritocratique, c'est-à-dire cette capacité, par l'accumulation de mérites individuels, intellectuels, de gravir les échelons de la hiérarchie sociale et atteindre des fonctions qui n'auraient pas pu être envisagées au début de la vie du jeune étudiant. On voit très clairement une colonisation des élites intellectuelles passées par les universités de l'ensemble des grandes administrations ecclésiastiques et administrations laïques. Si l'on se place au XIIIe siècle encore, quand on regarde les populations des chapitres cathédraux, notamment des chanoines, on a en général moins d'un quart qui porte le titre de maître. Si on se place au XVe siècle, ce sont près de 80% de ces chanoines qui ont le titre de maître. Donc on voit progressivement ces institutions ecclésiastiques colonisées par ces gradués d'université, au point que la détention d'un grade universitaire devient même un critère essentiel de recrutement pour l'Église. À partir de 1378, c'est une initiative du pape Clément VII, on ne peut pas prétendre obtenir une prébende, c'est-à-dire une charge de chanoine, dans un chapitre, si l'on n'est pas au moins détenteur d'un grade de maîtressard de l'université.
Ça veut dire qu'il y a une exigence qui s'installe, et qu'on peut même imaginer que le niveau intellectuel s'améliore.
Oui, c'est en tout cas la volonté de l'Église. Les universités sont aussi apparues dans un contexte où il y avait de la contestation ecclésiologique, voire théologique de l'Église. Il ne faut pas oublier qu'en 1215, quand apparaissent donc ces grandes universités, c'est le quatrième concile de Latran, c'est le moment où l'Église lutte contre ce qu'elle nomme les hérésies, et donc il y a un enjeu à former des clercs qui soient intellectuellement bien formés pour pouvoir lutter avec les armes de la doctrine contre ceux qui la contestent.
C'est-à-dire que là, il y a une espèce de centralisation du savoir.
Centralisation et même, je pourrais dire, monopole. Il y a véritablement une tentative de construction d'un monopole du savoir par l'Église, absolument.
Donc on ne peut pas enseigner n'importe quoi.
On ne peut pas enseigner n'importe quoi. D'ailleurs, le contenu des enseignements est établi. Il existe des programmes qui sont dans les statuts. Et quand les institutions universitaires ou l'Église ont vent d'enseignements qui dévient de la droite doctrine, on n'hésite pas à rappeler les maîtres à l'ordre, voire à condamner leurs propos. C'est le cas notamment des célèbres condamnations parisiennes de 1260. 1270, 1277, où un certain nombre de maîtres avaient enseigné des théories aristotéliciennes que l'on dit averroïstes parce que reçues par le truchement de ce philosophe musulman qui est Averroès, qui contestait un certain nombre de points absolument fondamentaux de la philosophie naturelle et pas compatibles avec, avec la foi chrétienne. Donc il y a une surveillance aussi hein, de ce que l'on peut enseigner dans ces universités.
Mais il y a aussi donc, vous l'avez dit, une possibilité d'accéder à un savoir, à des connaissances, à une formation, en théorie, quel que soit le milieu dont on est issu.
Oui.
Ceci dit, une immense partie de la population n'ira jamais dans les universités.
Non, c'est une petite fraction. Hein. Alors là encore, c'est pas toujours facile d'obtenir des chiffres fiables, hein, mais si l'on se place pour comparer au début du XIVe siècle, on peut estimer que l'université d'Oxford a pu atteindre quelques 1000 étudiants, l'université de Bologne un peu plus, 1500, 2000 peut-être.
Sur une année.
Et c'est l'effectif à un moment donné, oui,
oui
sur une année. Et puis la plus importante, c'est effectivement l'université de Paris où on a estimé qu'il pouvait atteindre 4 à 5 000 étudiants et maîtres au total. Dans une ville comme Bologne ou dans une ville comme Paris, c'est néanmoins une population qui est numériquement importante parce que même si on ne reste pas toute sa vie à l'université, quand on a prêté serment à l'université au moment où on y entre, en théorie, on reste lié à elle toute sa vie. Et donc, on participe d'une certaine façon à la continuité de l'université, même si on entame une vie professionnelle ensuite ailleurs.
Qui en éloigne. Mais qu'est-ce que c'est que ce serment ?
On prête serment, alors c'est le cas notamment pour l'Université de Paris, l'obligation de prêter serment au moment où on passe le premier grade universitaire. Hein, on prête serment, c'est le principe même de l'universitas, hein, c'est une communauté jurée. Donc on prête serment à l'ensemble de l'université et c'est un serment qui est perpétuel, c'est-à-dire qu'on ne peut théoriquement plus...
On fait partie de cette université.
On fait partie de cette université, voilà. Ce qui pose d'ailleurs parfois problème. On a des cas au XIVe siècle où des avocats qui viennent plaider au Parlement de Paris contre l'université, au moment on commence le procès, le premier geste de l'université, c'est de dire que l'avocat est parjure parce qu'il a, en son temps, quand il a fait ses études de droit, prêté serment à l'université, et là, il plaide contre l'université. Et on voit des avocats qui sont obligés de se faire relever de leur serment par la papauté pour pouvoir plaider contre l'université. Donc, on est lié à l'université toute sa vie, normalement. Ce qui fait que si seuls 4 ou 5 000 étudiants au XIVe siècle fréquentaient à ce moment-là l'université, on peut considérer qu'à Paris, qui est une ville qui concentre une population cléricale importante, il y avait beaucoup plus de monde qui était passé par l'université. Ainsi, vers 1394, on sait qu'il y a eu une consultation pour résoudre le grand schisme à ce moment-là, qui était ouverte par l'université. Et les récits de cette consultation nous expliquent que chaque personne liée à l'université pouvait venir voter. Et d'après le religieux de Saint-Denis, ce sont quelques 10 000 suffrages qui ont été recensés dans la ville de Paris à un moment où elle ne comptait plus, cette ville de Paris, que moins de 200 000 habitants. C'est-à-dire qu'on atteint là une population qui, selon les moments, pouvait atteindre au mieux 10% de la population parisienne, ce qui est tout à fait considérable. D'autant que c'est une population qui constitue l'élite de la population parisienne.
On l'a vu, Antoine d'Estemberg, l'université est très liée au pouvoir ecclésiastique. Elle regroupe des maîtres et des étudiants qui sont des penseurs, des intellectuels, disons, des gens qui réfléchissent, des gens qui cherchent la vérité, entre autres, dans diverses disciplines. De là à penser que c'est donc un lieu qui peut être un lieu de pouvoir.
Oui, tout à fait. La période médiévale, une période où le binôme savoir-pouvoir a tout son sens, hein, prend tout son sens. L'université est effectivement un lieu qui pense la société et qui, de ce point de vue-là, entend influencer aussi le pouvoir royal, les pouvoirs princiers dans leurs décisions. L'Université de Paris se présente comme la conseillère du roi et les maîtres se flattent de pouvoir accéder par le privilège d'une relation personnelle avec le roi, accéder à celui-ci. Et nous avons un certain nombre d'exemples de discours, de textes, voire de remontrances qui peuvent être faites par les maîtres de l'université à destination du pouvoir royal. Donc il y a cette prétention à participer aux grandes décisions.
Donc il y a une prétention, mais est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce que vraiment ces maîtres et cette université pèsent ?
Alors, elle varie selon le contexte et si elle a ou non l'oreille du roi. par moment, elle joue un rôle tout à fait essentiel. C'est le cas notamment durant la période du Grand Schisme, donc ce moment qui voit une crise de la chrétienté à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle.
Avec deux papes.
Et la royauté de France, comme d'ailleurs beaucoup des autres pouvoirs laïcs en Europe, ont bien du mal à se positionner, à savoir comment faire, suivre un pape ou l'autre, parce que dans tous les cas, ils sont perdants. Et en 1394, l'université est sollicitée par le Conseil royal, plus particulièrement par le duc de Berry, pour proposer des solutions pour sortir du grand schisme. Et c'est une véritable consultation, et l'université propose, rend un rapport, on dirait aujourd'hui, avec diverses solutions pour essayer de sortir de cette situation. Donc le rôle de conseiller est tout à fait essentiel. Elle prétend également jouer le rôle de conseiller à des moments particuliers, notamment durant les grands cérémoniaux royaux. Lorsque le roi fait sa première entrée à Paris, qui est un rituel traditionnel après le sacre de Reims, eh bien, l'université va accueillir le roi devant Notre-Dame et lui fait un discours qui, en général, est une exhortation à suivre donc le chemin de la sagesse dans le gouvernement du royaume.
Tout ça avec l'aval de l'évêque ou parfois en concurrence avec l'évêque ou les chanoines ?
À certains moments, effectivement, c'est en concurrence avec l'église de Paris. Je pense en particulier à un autre de ces grands rituels royaux que sont les funérailles royales. Nous avons le cas, notamment au moment des funérailles de Charles V en 1380, d'une confrontation extrêmement forte entre le chapitre de Notre-Dame et l'évêque et de l'université, parce que chacun prétendait avoir une place, la droite du cortège, dans le cortège funéraire qui accompagne le roi, la place de droite étant évidemment la plus prestigieuse. Ce qui débouche d'ailleurs à quelques explications musclées qui forcent le prévôt royal à intervenir. Et c'est un épisode bien connu parce que ça se passe très mal. Donc il y a aussi des concurrences, bien sûr.
Donc vous dites que cette influence, elle varie selon le contexte, selon le roi, selon les personnes aussi. Parmi les maîtres, certains ont plus d'aura que d'autres, une réputation qui les précède et dont les conseils sont plus recherché.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des grands maîtres qui ont été presque des professionnels, des conseillers des princes. Je pense notamment à Gilles de Rome, qui a conseillé Philippe le Bel, mais que l'on retrouve aussi pour conseiller la papauté, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a produit une littérature que l'on pourrait qualifier de science politique, le gouvernement des princes, et qui, de ce fait, entend jouer un rôle essentiel dans la construction d'un savoir pratique de gouvernement. Donc là, oui, il y a des exemples de maîtres qui sont particulièrement écoutés ou qui ont une influence tout à fait essentielle. Et puis il y a d'autres périodes, au contraire, où l'université n'est plus écoutée ou de moins en moins. Parmi les rois de France qui ont le moins d'affinité avec l'université, il y a Charles VII ou son fils Louis XI qui ont développé une certaine rancœur vis-à-vis d'une institution qui les a peu soutenus, notamment pour Charles VII, au moment du conflit contre les Bourguignons et les Anglais. Et l'université de Paris aura à souffrir dans la seconde moitié du XVe siècle de relations tendues, difficiles avec le roi qui n'entend plus prêter l'oreille à ses maîtres qui n'ont pas rendu au roi la grâce de ses privilèges.
Ce modèle universitaire qu'on a décrit à travers nos entretiens, Antoine d'Estambert, médiéval donc, est-ce qu'il va beaucoup changer, beaucoup évoluer dans les siècles qui vont suivre, notamment à partir de la Renaissance ?
Oui, il évolue, mais il n'évolue pas partout de la même façon. Si vous allez encore aujourd'hui dans les universités anglaises, que sont Oxford ou Cambridge, vous avez là, d'une certaine façon, une sorte de conservatoire de l'université médiévale, tant dans les habitudes que dans la structuration, en collège, etc. Dans le cas de l'université française, elle passe par des réformes nombreuses. D'abord, effectivement, à partir du XVIe siècle, la concurrence importante des collèges, hein, des collèges humanistes d'enseignement, qui jouent un rôle très important dans la structuration du paysage intellectuel et qui tend à faire de l'université de Paris une université vraiment dominée par la théologie, ce qu'elle n'était pas entièrement auparavant.
Les académies aussi vont faire concurrence.
Les académies qui sont des institutions qui n'ont pas tout à fait le même but, mais qui inévitablement dans le recrutement vont faire concurrence. La réforme napoléonienne va changer largement l'organisation des universités, et plus récemment encore jusqu'en 1969. Hein, et la réforme Ford des universités fait que là encore, ce passé médiéval s'est globalement estompé dans son une organisation et administrative, d'enseignement, etc.
Qu'est-ce qui en reste en fait aujourd'hui ?
Alors si on doit chercher ce qui reste de l'université médiévale, il y a, me semble-t-il, un certain nombre de principes fondateurs qui dominent, et notamment ce qu'on appelle au Moyen-Âge la libertas scholastica. Cette idée de liberté intellectuelle qui devrait permettre aux universitaires de ne pas être contraints dans les recherches qu'ils mènent, de pouvoir d'une certaine façon évaluer par eux-mêmes la pertinence des recherches qu'ils mènent, quelque chose que l'on voit dès la période médiévale. Donc cette libertas scholastica qui doit être accompagnée et notamment protégée, encadrée par une certaine bienveillance ou en tout cas un intérêt du pouvoir qui doit assurer les conditions nécessaires à cette recherche, à ces investigations intellectuelles. Cette libertas scholastica qui est donc formulée dès la période médiévale est, me semble-t-il, un des principes fondateurs de l'université, et même si on peut la discuter aujourd'hui, je crois que c'est un horizon, certes historique, mais c'est un horizon qui est toujours dans la tête de beaucoup de tenants de l'université aujourd'hui.
Les disciplines enseignées désormais sont beaucoup plus importantes en nombre, je veux dire. Il y a énormément de facultés dans les universités. Les disciplines ont beau avoir été multipliées, le principe d'origine, la recherche de la vérité, a priori, lui, il est quand même toujours au cœur de ces démarches.
C'est ce qu'on souhaite. Oui, tout à fait. C'est normalement ce qui devrait être le principe de l'université. Alors, il est vrai que l'évolution des métiers, l'évolution des disciplines a fait que on a aujourd'hui une multiplication des différentes filières. Et puis, il y a, depuis quelques décennies, la volonté de faire entrer un enseignement qui devient très pratique. Mais ce serait une erreur de penser, par exemple, qu'au Moyen-Âge, le fait d'apprendre la théologie ne permet pas, dans ses raffinements les plus complexes, d'acquérir des capacités pratiques par la suite. Parce que ce qui est fondamental, c'est la capacité de raisonnement, c'est la capacité d'analyse, c'est la capacité à croiser les informations et à en tirer des résultats, à en tirer des réflexions pour atteindre une certaine vérité. Et ça, c'est un élément essentiel qui, dans un cadre pratique ou dans un cadre théorique, est finalement toujours la même démarche.
Et puis ce modèle, pour terminer, a été exporté. On le trouve aujourd'hui sur les 5 continents, bien évidemment, et ces méthodes, quelles que soient d'ailleurs les mentalités du pays en question, prennent, fonctionnent.
Oui, ça c'est aussi, je dirais, l'extraordinaire destin de ce modèle universitaire, c'est d'être devenu, à partir du 19e siècle essentiellement, et au 20e siècle, un critère de modernité mondiale. Quand un pays veut se montrer moderne, il se dote d'une université. Et c'est un modèle qui est originellement un modèle strictement européen. Donc là, à travers le modèle universitaire, il y a une influence des structures intellectuelles européennes qui s'est diffusée dans l'ensemble du monde. Quand je parle d'université strictement européenne, je ne veux pas dire qu'il n'existait pas dans d'autres sociétés, d'autres civilisations, des formes d'enseignement supérieures, mais l'université, au sens juridique du terme, c'est bien une invention européenne et médiévale.
Merci beaucoup Antoine d'Estembert d'être venu nous en parler. L'histoire donc de cette université médiévale, vous êtes, je le rappelle, maître de conférence en histoire médiévale à l'université d'Artois. Et puis je renvoie nos auditeurs à votre livre « L'honneur des universitaires au Moyen-Âge » publié aux presses universitaires de France en 2015. Et puis je signale également qu'en 2017, vous avez publié chez Autrement un atlas de la France médiévale. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et merci à Pierre-Henri Paget qui était derrière les manettes. Thank you.